Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements. Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM. Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Micro Ouvert, nous vous proposons d'écouter la dernière des trois parties de l'entretien consacré à Laurent Gabaroum. Ce cadre chez Renault a porté plainte dans les années 80 contre son employeur pour discrimination raciale. Aujourd'hui, l'affaire Gabaroum est portée jusqu'à l'ONU. Une interview de Nouradine Agne.
Micro Ouvert sur Marmite FM. Nouradine Agne.
Moi, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bon, mais puisque l'ONU prévoit la réparation, une fois qu'on a eu gain de cause. Donc, il faut adresser une demande à Renault, puisque à partir du moment où on a deux procédures en cours devant la Cour d'appel de Paris pour escroquerie au jugement et une autre procédure d'appel devant la Cour d'appel de Versailles, Renault a déposé des conclusions d'acceptation du désistement. Donc, il y a eu un désistement d'appel. Puisque les réparations ont été accordées par l'ONU. On a retiré la plainte, on a mis fin à la procédure. Puisque dès lors que l'ONU s'est prononcée, on n'a plus le droit d'introduire la même affaire devant les juridictions nationales. Et ça, c'est l'article 55 de la Constitution qui le dit. C'est pas moi qui l'invente. Puisque les lois externes sont supérieures aux lois nationales. Donc la décision de l'ONU est supérieure au jugement de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, du Conseil de prud'homme. Et donc, nous, avec mon avocat, on a cru bien faire. On a adressé
à Renault.
On lui dit, mais écoutez, maintenant, est-ce que vous pouvez clôturer ce dossier, réparer le préjudice? Renault qui dit maintenant, oh, c'est pas vrai. Nous, on n'a jamais été accusés de discrimination raciale. L'ONU n'a jamais écrit. Mais l'ONU s'adresse à des États. Et puis, deuxièmement, Renault dit, nous, on ne fait pas partie de la procédure. Or, le premier, si l'ONU... Le comité des droits de l'homme de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale n'est pas compétent. Il ne se serait pas prononcé sur la procédure et s'il n'y avait pas des éléments constitutifs de discrimination raciale, il se serait déclaré incompétent. C'est comme si vous allez saisir le tribunal des enfants ou le tribunal des droits des femmes. Mais si vous n'êtes pas une femme ou si vous n'êtes pas un enfant, le tribunal n'est pas compétent pour juger de votre affaire. Mmh. Et ça signifie simplement que Renault aurait pu dire que pour nous, l'ONU n'est pas compétent pour examiner le problème de discrimination raciale. Mais sinon, si la discrimination n'existait pas, le comité aurait été incompétent. Et là, on a échangé avec l'État français.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ah mais, non, mais eux, ils font leur loi. C'est-à-dire que c'est pour tromper l'opinion, c'est la manipulation de l'opinion. Puisque l'ONU s'adresse directement, puisqu'on en a discuté avec l'ONU, mmh. L'ONU s'adresse directement à l'État français.
Donc c'est l'État qui doit agir.
C'est l'État
qui
doit
maintenant dire à Renault. Vous pouvez toujours parler à Renault, ça ne changera absolument rien.
Voilà, c'est l'État qui est maître, qui est souverain sur son territoire, qui doit faire maintenant injonction à Renault de réparer le préjudice et de le tenir au courant de la réponse qui a été apportée. L'État ne dit rien. L'État se mure dans un silence. Et donc, il laisse Renault libre. Et le PDG de Renault, à qui moi j'ai écrit,
Carlos Ghosn, qui est en difficulté.
Voilà.
C'est un euphémisme.
Voilà. Ouais. Et puis ensuite, le président du conseil d'administration, qui a reçu aussi mon écrit. Eux, ils se montrent polis. Mais ils passent mon dossier, ils passent mon dossier au directeur de l'établissement du siège. Mais on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas lui qui représente l'entreprise. Donc, il y a une volonté derrière en disant, une entente en quelque sorte, pour étouffer l'affaire en disant, mais on va rester comme ça, puisque l'ONU ne s'adresse qu'à des États. L'ONU ne peut pas envoyer des casques bleus occuper la France. Donc vous, la décision qui est rendue, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas recourir à un huissier pour nous contraindre. Ce n'est pas contraignant.
Donc vous êtes dans une impasse.
Voilà, donc ce n'est pas contraignant. Donc nous, on fait ce qu'on veut. Et puis en plus, Renaud a avancé la deuxième argumentation qui dit, mais nous, on n'est pas partis puisqu'on ne nous a pas demandé notre avis. Mais avec l'ONU, on est tombé des nues. Mmh. On dit, c'est pas possible. En première partie, pour la recevabilité, vous savez très bien qu'il y a une procédure de recevabilité qui est prévue par les articles. Donc, si l'ONU n'était pas compétente, il n'aurait pas examiné l'affaire. Mais deuxièmement, l'ONU n'a pas besoin de vous entendre. puisqu'il y a des décisions rendues par les tribunaux français qui vous sont favorables. Donc l'ONU regarde les décisions rendues par la justice française. Mmh. Et il dit, mais comment ils peuvent en arriver à rendre ce type de décision
avec les éléments,
qui sont au dossier et qui établissent clairement, en fonction des lois françaises, que la discrimination existe.
Donc Renault en est resté là, pour l'instant.
Renault en est resté là. Et je parle de Renault, mais moi je n'ai pas compris. Pourquoi le directeur de l'établissement ? Ce n'est pas une affaire interne à l'entreprise. C'est une affaire qui est à l'international. Et qui engage la Constitution, parce qu'en faisant ça, ils violent la Constitution. Parce qu'eux, ils se réclament. Troisièmement, ils se réclament des lois internes. Mais en se réclamant des lois internes, mais ils déjugent l'ONU. Ils déjugent l'ONU. Et ils déjugent l'ONU, pourquoi ? Mais c'est avec la complicité de l'État français. Si l'État français n'est pas prêt, parce que moi, en tant que tel, on me dit que c'est l'État français qui doit faire quelque chose. Mais l'État français, c'est qui ? Est-ce que c'est au niveau du Premier ministre ? Est-ce que c'est au niveau du ministre de l'Industrie ? Est-ce au ministre de... Voilà. Donc, moi, je ne sais pas à qui s'adresser. Et donc, il y a un flou artistique qui existe et qui permet justement de maintenir ce machin. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, selon ce que je sais, ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est que d'abord, je recuse la décision de l'ONU. J'ai dit, l'ONU, je ne sais pas... Quelle est la formulation, je ne sais pas. Mais que je mette en cause la décision de l'ONU. Et à partir de ce moment-là, eux, ils vont me donner une petite enveloppe.
D'accord,
en disant, voilà, votre carrière peut-être a connu tel machin, c'était malentendu, mais nous, bon prince, on vous fait ça. Moi, je dis non. On travaille pour les générations futures aujourd'hui. Dès lors que les discriminations sont...
Vous êtes en train de nous dire que vous ne travaillez pas pour obtenir un chèque de la part de Renault.
Non, mais pas du tout. Mmh. Mais nous, on veut qu'il y ait une jurisprudence d'abord. Et que la loi soit respectée. Pourquoi eux, ils ne respecteraient pas la loi ? Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il y a une constitution où tout le monde doit respecter la constitution. Ils discriminent les gens. Ils peuvent avoir la main sur la justice nationale. Qui émet des jugements qui leur sont favorables. Mais c'est pour cette raison qu'on va voir les juridictions internationales qui, eux, sont neutres et qui ont le recul suffisant
pour pouvoir juger les affaires.
Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe désormais ? Donc, nous, on s'interroge, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Puisque le gouvernement...
Parce que là, ça se complique, là. Parce que si le gouvernement français, enfin, l'État français ne répond pas,
Si l'État français ne répond pas, ça devient un racisme d'État. Puisque l'État est actionnaire de Renault. Donc, l'État peut demander à Renault d'exécuter la décision. Et la France a souscrit à des engagements internationaux. Et vis-à-vis de ces engagements internationaux, il est seul maître à faire appliquer la loi sur son territoire. Donc, à partir de là, il incombait. Et Renault, vis-à-vis de moi, a raison de me mener en bateau ou d'essayer de faire diversion. Mais il appartenait à l'État de dire à Renault, écoutez, vous exécutez la décision. Le 24 juillet de cette année. Ouais. On a fait le point avec l'ONU et on en est arrivé à la même conclusion. Donc, maintenant, la balle est dans le camp de l'État français. C'est à l'État français, s'il nous écoute, d'intervenir auprès de Renault, de dire, mais écoutez, vous clôturez ce dossier, vous le réparez, il y a un problème, il faut le régler, c'est terminé.
Ou vous faites la sourde oreille.
Et dans ces conditions, nous aussi, on est prêts. Donc, on a la possibilité soit de porter plainte de demander l'application, l'exécution d'une décision internationale conforme à la Constitution, soit devant une juridiction, soit au siège du Comité des droits de l'homme pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale, qui est à Genève, soit au siège de l'ONU, qui est à New York, c'est-à-dire saisir les tribunaux américains ou saisir les tribunaux suisses.
Voilà, on est reparti encore pour une longue période.
Mais là, on ne repart pas pour une longue période. Parce que nous, on demande simplement l'application d'une décision de l'ONU. On ne va pas reprendre la procédure à zéro. Puisqu'il y a une résolution de l'ONU qui nous donne ce droit. Mais si l'État français ne veut pas intervenir auprès de Renault et met le dossier dans le tiroir en attendant qu'ils vont se décourager... où il y a un flou artistique qu'on va maintenir et ils ne sauront à quel interlocuteur s'adresser. Et bientôt, moi, je dois partir à la retraite et tout sera calculé sur des bases fausses. Donc nous on dit, ok, dans ces conditions-là, on va aller devant les juridictions internationales, dans d'autres pays.
Et pour, pour porter plainte contre la France.
Voilà, on va porter plainte contre la France, puisque ça devient racisme d'État. Ça devient racisme d'État, puisque l'État français n'a pas été capable de garantir nos droits. Et maintenant qu'il y a des juridictions internationales...
qui vont dans votre sens.
Qui vont dans notre sens et auxquelles il a signé toutes ces conventions-là. La France les a signées et ratifiées. Et maintenant, il s'est engagé à les respecter. Et s'il ne les respecte pas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est parce qu'on est noir. Parce qu'on est noir ou parce que si jamais il répare des discriminations, c'est un appel d'air pour d'autres minorités qui pourraient éventuellement dire « Mais ah, il y a une piste !» Désormais, même si on est débouté par les tribunaux français, mais on a la possibilité d'aller saisir l'ONU. Donc, il faut tout faire pour que ceux qui y sont aujourd'hui n'obtiennent rien, de manière à ce qu'ils puissent se compromettre avec eux dans des solutions dérisoires et que la discrimination raciale ne soit pas reconnue. Or, la discrimination raciale existe. Voilà la raison pour laquelle on essaye de faire en sorte que cette information soit connue.
Et que vous avez lancé une pétition également.
Que nous avons lancé une pétition. Et cette pétition, j'ai été même au Vatican. On a parlé au...
Vous avez essayé de faire une grève de la faim au Vatican.
Au Vatican aussi. On a parlé au Saint-Père. On a parlé à tout le monde. Donc aujourd'hui, on a assez fait. On a mis tout le monde au courant. Et aujourd'hui, on lance l'appel aux bonnes volontés de quelques pays qu'ils soient.
Parenthèse, le pape a-t-il relayé cet appel?
Mais le pape nous a demandé tout simplement de tendre la main encore à Renault. C'est ce qu'on a fait et Renault a refusé la main.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on estime qu'on a tout fait ce qu'il fallait faire et que nous sommes dans l'impasse. Parce que je ne suis pas seul. Moi, mon dossier a abouti, mais il y a deux autres copains dont le dossier a été jugé recevable. Donc c'est que l'ONU dit qu'il y a des éléments constituent la discrimination raciale qui sont réunis.
Que ce soit plus un système carrément.
Voilà,
là, on était peut-être ici uniquement sur votre personne, voilà. Mais là, ce serait plus un système.
Mais toujours est-il que ces personnes, ils ont obtenu déjà devant les juridictions nationales que Renault a été coupable de discrimination raciale. Mais malgré le fait que Renault est condamné pour discrimination raciale par les tribunaux français, Renault continue à nier l'existence de discrimination raciale. Ce qui fait que même aujourd'hui, en contestant le fait que moi, je ne suis pas discriminé, c'est faux. Parce qu'ils refusent toutes les condamnations. À partir de ce moment-là, nous, on va leur faire ce que dans une société démocratique on fait, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à des tribunaux, mais qui ne seront pas des tribunaux français, et ça ne se passera pas en France, et ça sera pour leur image de marque, et ça sera pour leur argent. Voilà.
Pour terminer, Laurent Gabaroum, après toutes ces années de combat judiciaire, vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit un jour, c'est une question un peu cynique. Est-ce que vous vous êtes pas dit un jour, je vais aller voir Renault, je vais négocier avec eux, peut-être que je vais obtenir 1 million, 2 millions d'euros, que sais-je. Puis je continuerai quand même à parler de mon histoire en faisant un site internet, en faisant des reportages, etc. Mais je suis fatigué, je passe la main.
Mais on ne peut pas négocier une décision de justice. Dès lors qu'une décision de justice est rendue, elle doit être appliquée intégralement. Là, dans notre cas, si c'était des Blancs, on allait leur demander, messieurs, le tribunal a rendu une décision, une juridiction internationale a rendu une décision, maintenant oubliez cette décision et venez, on va s'arranger. Ça ne se fait pas. Dans quelle démocratie on fait ça?
Aux États-Unis, parfois.
Mais avant le procès.
Avant le procès.
Oui. Avant le procès, pas après le procès.
Effectivement.
Dès lors que la décision est rendue, on applique la décision. Et Renault est condamné, donc elle doit appliquer la décision. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va négocier? On ouvre la boîte de Pandore pour qu'il s'invite là-dedans et qu'il continue à se croire impuni ou continuer à discriminer les gens, les autres salariés. C'est ça. Une décision est rendue, la décision doit s'appliquer. Et c'est l'honneur d'une démocratie. Sinon, demain, quelqu'un est condamné, il dit, mais maintenant...
Il
n'applique pas la peine et il dit, mais moi, je sors un carnet de chèques. Et le carnet de chèques, ça sort d'où? C'est l'argent de nos impôts, puis c'est une entreprise publique. Ce sont l'argent de nos impôts. Donc, il y a une question qui se pose aussi. Voilà. Et donc, on ne peut pas négocier. C'est la raison pour laquelle je dis que ce serait donner un mauvais exemple. Parce que je ne me bats pas
seulement pour moi. C'est une question d'honneur. Oui, tout à fait.
Voilà. Parce qu'il y a une décision de justice. Il faut que la décision de justice s'applique. Et on ne critique pas dans une démocratie une décision de justice. Renault critique la décision de justice régulièrement. Et l'État ne dit rien. Donc, c'est très grave. Ça devient racisme d'État. ça devient un régime d'État. Donc c'est surtout pour ça qu'on dit, mais écoutez, si c'est un pays, parce que la France quand même, là, c'est un peu politique, mais, et même polémique, mais la France intervient pour faire respecter les droits de l'homme dans d'autres pays. Mais quand ça se passe sur son territoire, qu'est-ce qu'on fait ? Quand ce sont ces nationaux qui sont discriminés sur son propre territoire, qu'est-ce qu'on fait ? On dit rien, on dit ça n'existe pas. Mais c'est les mêmes méthodes qu'utilisent les dictateurs dans ces pays-là. C'est pas autrement ce que le comportement de Renault. Et c'est différent du comportement de Bokassa.
Pour faire un parallèle, de toute façon, la France a été condamnée récemment pour contrôle aux faciès par l'Europe, par le tribunal européen dont j'ai oublié le nom.
La Cour européenne des droits de l'homme.
Mais la France a commenté en disant qu'elle réfutait l'idée même de contrôle aux faciès, etc. Malgré la condamnation du tribunal.
Mais ça, c'est le problème. Et ça, c'est politique. Parce que demain, quand ils vont aller dans des instances internationales, donner des leçons aux autres, il n'y a qu'à, chez vous, il n'y a pas la paix, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas de démocratie, vous torturez les gens, vous faites ceci, vous faites cela. Les gens vont leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites sur votre propre territoire avec vos Noirs ? Qu'est-ce que vous les faites ? Et avec vos Maghrébins, qu'est-ce que vous en faites ? Vous faites la même chose. Et donc, pourquoi vous venez nous donner des leçons ? Voilà, c'est ça le fond du problème. Et là, il y a une décision de justice.
Donc, il faut faire pour vous.
Et ce n'est pas les juges du tiers-monde. Ce sont les juges des démocraties occidentales qui ont reconnu que Renault est coupable de discrimination. Même si on s'adresse à l'État, c'est Renault qui nous discrimine. Donc, ce n'est pas l'État français. L'État français, sa mission, comme ça se passe
c'est
sur
de faire
son
respecter
territoire,
la décision.
Ça engage sa responsabilité. Et dès lors qu'il a reçu une note de l'ONU, il lui incombait de s'adresser à Renault ou de s'adresser au PDG de Renault, de dire, mais vous exécutez la décision. Mais s'il passe la décision à un sous-fifre à côté, mais ça veut dire quoi ? C'est qu'il veut l'étouffer ou il ne veut pas respecter cette décision. Et quand vous regardez les lettres qu'ils m'ont adressées, c'est scandaleux. Le petit juriste qui est à côté, qui ouvre et qui regarde, il dit, mais ça se passe où ça, cette histoire ? Ça se passe où ? C'est en France, ça ?
Pour être cynique, on pourrait dire que ça se passe en Afrique. Merci en tout cas, Monsieur Gabaroum, pour votre témoignage. Monsieur Areski Amazou, justement, parce que vous êtes venu il y a quelques années déjà, je le disais tout à l'heure, en 2008, pour nous parler de l'ATRIS, donc cette association des anciens travailleurs de l'île Seguin. Vous aviez fait une exposition, notamment, pour parler d'une histoire qui est très, très peu connue, très peu médiatisée, notamment de l'immigration qui est arrivé dans les années 70, fin des années 60-70, et qui a travaillé notamment à l'usine Renault. Vous êtes retraité depuis 2014, retraité actif, puisque vous étiez militant d'ailleurs, militant CGT à l'époque. On vous voit dans un reportage, dans un documentaire qui a été fait, où vous retournez justement sur ce fameux...
Retour sur l'île Seguin.
Retour sur l'île Seguin. Vous retournez dans votre ancienne entreprise. Et vous revivez un petit peu toutes les grèves et tous les mouvements syndicaux qui ont pu se passer. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Gabaroum et comment vous vous retrouvez aujourd'hui à accompagner Laurent Gabaroum au studio de Marmite
FM ? Moi, Laurence, je l'ai accompagné dès le début parce que c'est une discrimination criante. Et nous, les travailleurs immigrés dans l'île Seguin, à qui nous refusaient l'alphabétisation pour accéder à des postes un peu plus homologués, etc. Mais le cas de Laurent, c'est flagrant. C'est un gars qui a travaillé des études supérieures, etc., etc. Et tout ce qu'on lui reproche, c'est pas ses diplômes, c'est pas ses compétences, c'est pas ses capacités, c'est sa couleur noire. Donc cette discrimination, moi, m'a révolté. M'a révolté, d'autant plus que, avec tous les gens qui travaillent aussi avec moi sur les chaînes, on se voit et on se disait bonjour dans toutes les langues. On ne sait pas si on est noir ou blanc ou jaune. On sait qu'on est là, chez Renault.
Oui, c'était pas un critère pour vous, en tout cas.
Rien du tout. Nous, on fêtait tout ensemble, que ce soit les naissances, les mariages, les départs en retraite, etc., etc. Alors, il faut maintenant, ce qu'il disait Laurent depuis tout à l'heure, je l'ai écouté, c'est de réunir aussi peut-être un peu plus les conditions des associations, des grosses associations en France contre le racisme et la discrimination, de faire pression sur Macron, parce que c'est comme ça, il faut dire, de faire Macron et qui appelle le PDG de Renault pour régler ce problème-là. Parce que, bon, la discrimination raciale, nous l'avons vécue, on a dit, bon, bon vous n'avez pas les bagages, vous n'avez pas été à l'école, ok, bon, on a travaillé OS à vie, hein, à vie, 37 ans, 40 ans, à la chaîne, à répéter le même geste, le taylorisme, le travail partialisé, etc. En sortant à la retraite, avec les mêmes coefficients, avec le... Bon, tout simplement cabossé et tout. Et là, c'est un gars qui a travaillé à l'école, qui a fait des études, etc., etc. Et aujourd'hui même, chez Renault, il y a de la discrimination raciale et professionnelle. Parce qu'il y a l'exemple de Laurent, mais il y a des gens qui n'osent pas le dire, le crier comme il le fait Laurent. De peur, bon, bah, parce qu'il faut travailler pour faire vivre sa famille, etc., etc. Mais ils subissent cette discrimination à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense que disait tout à l'heure Laurent, c'est pas, il se bat pas que pour lui, mais il se bat aussi pour les générations futures, pour que ça s'arrête. Ça s'arrête, la discrimination que subissent ces jeunes aujourd'hui, diplômés ou les anciens, dans les entreprises, pas seulement chez Renault d'ailleurs. Hein. Il faut regarder partout. Les enfants d'immigrés, quand ils arrivent, ok, d'accord, mais voilà, tu fais le boulot dans le noir. On a mis du temps chez Renault pour mettre un vendeur en vitrine. Les vendeurs noirs ou maghrébins, on les mettait dans l'ombre. Et aujourd'hui, par le combat, c'est par la lutte, on a réussi quand même à arracher quelque chose. Et on trouve que c'est des gens qui sont très brillants, qui sont vraiment très brillants dans leur poste, dans leur travail, etc. Donc, le combat pour nous, ça ne s'arrête pas. En tout cas, au niveau de notre association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt, on travaille beaucoup sur la mémoire pour qu'on n'oublie justement rien. Tous ces travailleurs-là qui sont venus des quatre continents, qui ne parlent pas la même langue, mais ils travaillaient à la chaîne, pareil, et postaient tous les matins, tous les après-midi, en équipe A, en équipe B à la chaîne, ils faisaient le même travail, ils ont développé cette entreprise grâce à leur force de travail, etc. Donc il faut que ça cesse. Donc je continue, moi, dans le travail d'association pour raconter la mémoire. Et cette mémoire, on aimerait bien qu'elle soit partagée, à partir de, comme vous, aujourd'hui, ici, mais aussi... que des responsables au niveau des lycées ou au niveau des associations invitent les anciens Renault pour venir raconter leur parcours.
Leur histoire.
Mmh. Et vraiment transmettre cette mémoire. Et aujourd'hui, on a un pavillon dans l'île Seguin qui est visité par plus de 60 000 personnes depuis 2012. Mmh. Aujourd'hui, ce pavillon, on va le déplacer de l'île Seguin, mais on va le mettre juste au pied du nouveau pont Renault qui monte à l'île Seguin. Il s'appellera la Maison des Projets. Mais tout ce qu'il y avait dans, tout ce qu'il y a dans le pavillon de l'île Seguin, cette scénographie qui retrace un peu l'île Seguin avant, pendant et après, eh ben, on va le retrouver dans la Maison des Projets juste côté en face, quoi, l'île Seguin de la scène musicale. Et ce combat-là, on a dans l'association, évidemment, pas que des Maghrébins, pas que des... Non, on a tout le monde, et on a des Français, on a des ingénieurs, des cadres qui viennent travailler avec nous. Et puis bon, il y a une association qui nous invite pour témoigner, s'appelle Parole d'hommes et de femmes. Il y a un festival, à Hirson, Avignon et Marseille. Et ben, on va devant les lycéens, souvent c'est des terminales, hein, et on raconte les parcours de migrants. Et ça, je pense qu'à Trice, on le fait, on le fait en tous les cas, tant qu'on est là, on le fera, et donc on va continuer à transmettre cette mémoire, comme dans le film de Retour sur l'île Seguin, ou le dernier film de Caroline Pochon, Les hommes de Billancourt, voilà, où voilà, des écrits. On a un livre qui s'appelle de Billancourt à l'Olympia, parce que Mustapha Ilbihi, il a écrit un livre. Il travaillait à la chaîne, mais la nuit, il rencontrait des grands chanteurs du Maghreb et d'Afrique noire, c'était les ballets africains. Il jouait l'impresario. Donc il a écrit un livre qui s'appelle de Billancourt à l'Olympia. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Amazouz. Merci également, Laurent Gaborum, d'être venu nous parler de votre parcours, de votre combat. Et voilà, on relaiera la suite en attendant une réponse du président de la République à qui on va transmettre cette émission. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, si vous voulez réécouter cette interview ou les deux précédentes, rendez-vous sur le site de la radio marmitefm.canalblog.com dans la rubrique Micro ouvert. Merci à tous.
C'était Micro ouvert,
présenté par Nouradine Anne. Une chose à nous dire, c'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.